Alors, ça commence par une image des allégories. Je crois que c'est en arrivant sur le mur de droite, les allégories du bon gouvernement, avec les figures de la justice, la foi, l'espérance et la charité, la prudence, la magnanimité, la tempérance, la sagesse, la paix, etc. Et des portraits un peu emblématiques, symboliques de la ville de Sienne, avec les couleurs noir et blanc, les personnages qui la représentent, qui l'ont fait naître d'une façon légendaire. Et puis, sur la gauche, une fois qu'on a franchi la porte, donc on a eu ce mur de droite, sur la gauche, on a les effets de ce bon gouvernement. Après avoir jeté un œil sur l'allégorie, on a les effets qui concernent à la fois, sur la première moitié, la ville, et sur la deuxième moitié, la campagne. Donc, un ensemble allégorique puis réaliste des effets laïques du bon gouvernement. Puis alors, sur le mur d'en face, il y a les allégories et les effets du mauvais gouvernement. Et donc, on a la totalité du monde idéologique de l'époque en train de se créer, mais on ne le saura qu'après, évidemment. On ne peut le dire qu'aujourd'hui, effectivement, annonce déjà très fortement l'esprit de la Renaissance.
On entend une description des fresques d'Ambrogio Lorenzetti, ces fresques dont je parlais tout à l'heure en introduction de notre conversation. C'est une description qui est faite par Gérard Fromanger au micro de Pascal Lismonde. Pour peut-être mettre plus avant les pieds dans le printemps 1974, qui vous voit faire face à ces fresques, les regarder et prendre note presque de ce regard. C'est un regard dont témoignent à la fois ces dessins, ces notes de regard et quelques toiles. Est-ce que justement ce que vous décrivez tout à l'heure comme phénomène de reconnaissance dont on sait de moins en moins dire le nom a lieu face à ces toiles du XIVe siècle, François Rouen ?
Je pense même que c'est cela qui m'a conduit à demander au premier magistrat de l'époque, à monsieur le maire, l'autorisation d'aller faire des copies devant ce mur. Parce que
maire de Sienne.
Le maire de Sienne, qui, avec la générosité et la gentillesse italienne, m'a dit « pas de problème, le lendemain, il y avait un échafaudage qui était installé ». C'est aussi simple que ça, bon. Et j'ai passé quand même 2 ou 3 mois sur cet échafaudage tous les matins jusqu'au début d'après-midi où l'envie d'aller manger un tramezzini m'arrachait et je partais dessiner dans la campagne. Quand vous m'avez donné à entendre ce commentaire sur la fresque au palais communal, je pensais que c'était un historien de l'art. Je n'ai pas imaginé que ça pouvait être un peintre qui exposait de cette manière-là et qui décrivait de cette manière-là, très justement, parce que cette description, c'est la description du savoir, telle que justement la lecture des historiens de l'art permet, si vous voulez, de décrire correctement les choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, certes, je savais vaguement que ça avait affaire avec tout cela. J'avais une petite idée sur la situation de la République de Sienne à cette époque, la commande au frère Lorenzetti, bon, tout le contexte. Mais moi, j'entendais là-dedans une musique.
J'entendais, dans ces fresques.
Dans ces fresques. J'entendais une musique. J'entendais dans le silence de ces fresques une musique. C'était une époque où je dessinais beaucoup devant les images de l'œuvre de Sirens. C'était une édition des années 30 avec des belles reproductions en noir et blanc en héliogravure. Je dessinais d'après ces grands chefs-d'œuvre de la peinture non pas siennoise, mais chinoise. Et ce qui m'étonnait, c'est que finalement, il y avait une certaine proximité pour moi entre les peintures chinoises que je voyais dans les ouvrages de Sirène et une manière de dire les choses dans cette allégorie du bon et du mauvais gouvernement. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi les éléments, disons, de narrativité était second par rapport à une proposition spatiale qui produit la sensation d'une musique particulière. C'est ce que moi j'appelle la poésie, et je pense que la poésie, elle n'est pas contraire au champ du savoir, et ce qu'on peut en dire, mais c'est quelque chose qui va directement, qui s'adresse directement à l'émotion du public, quel qu'il soit, et qui n'a pas besoin du savoir pour ressentir cette musique-là.
Quand vous parlez d'un effet d'oracle, presque, de ce tableau de Lorenzetti, alors que vous avez une trentaine d'années, que vous décidez de passer ce printemps à Sienne en 1974, c'est un oracle qui annonce quoi pour vous en tant qu'être et quoi pour vous en tant que peintre au travail ?
Si vous voulez, c'est pour ça que je faisais référence à la colère de la jeune fille, telle que j'ai pu la voir par le bonheur de le voir, de revoir dans le procès de la Jeanne d'Arc de Bresson, portée par la voix absolument magnifique, et cette colère de la jeune fille et de la pureté de la jeune fille qui était portée par la jeune Florence Delay, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui a à faire avec la colère. La colère devant l'ordre du savoir. Parce qu'il y a une mise en ordre, il a fait référence, cet artiste, à encore une fois, à cette peinture et à ce moment de l'histoire, dans la République de Sienne, chez Lorenzetti, comme préfigurant ce que l'on va appeler la Renaissance. Mais si la Renaissance, comme moment incontestablement porteur, et de ses effets profonds dans toute la culture européenne, pour pas dire d'ailleurs mondiale peut-être, même d'une certaine manière, elle est aussi cette histoire placée dans une chronologie qui nous coupe de plus en plus de ce printemps initial qui serait celui de l'enfance. Parce que c'est au nom de cette mise en ordre de l'histoire qu'il faudrait accepter les cocasseries, par exemple, de M. Jeff Koons, ou le néo-expressionnisme des athlètes.
Je vois qu'on revient sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Pour autant, est-ce que véritablement ce que vous appelez le savoir ou la connaissance coupe nécessairement aux retrouvailles avec le printemps ? Est-ce que c'est nécessairement antinomique ?
Absolument pas, mais c'est l'acceptation pour retrouver le printemps au cœur de l'hiver de nos vies. C'est l'acceptation, de temps en temps, de se donner les moyens de se couper de la matérialité des discours et de la matérialité des choses. Comme si, au fond, il fallait se dégager de plus en plus d'un certain nombre d'encombrements qui s'accrochent à nous du matin au soir, sans même qu'on en demande. Et notamment la question politique, puisqu'il s'agit bien là d'une thématique politique,
chez
Lorenzetti, du bon et du mauvais gouvernement, m'importe parce qu'aujourd'hui, on trouve légitime d'être littéralement emmerdé par les discours protecteurs, soi-disant, généraux, des abstractions de plus en plus insignifiantes qui sont portées par les acteurs politiques et qui prennent par la main, là pour le coup, non pas la rencontre poétique avec la beauté, le printemps de la beauté, mais comme s'il fallait apprendre à marcher au pas correctement du berceau jusqu'à la tombe.